Sunwa Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Coup de soleil, grains de beauté, mélanome, carcinome. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons des cancers de la peau. Pour comprendre comment se développent ces cancers cutanés, pour décrire les meilleurs moyens de repérer les signes suspects. Le nombre de ces cancers est en augmentation constante et il représenterait aujourd'hui, d'après des données de la Fondation américaine des cancers de la peau, pas moins d'un cancer diagnostiqué sur trois. Carcinome, mélanome, des cancers de la peau donc au pluriel, puisque la nature des cellules affectées, le niveau de la peau touchée vont déterminer les dommages et les risques de dissémination de la maladie dans l'organisme. Au cours de l'émission, nous parlerons bien sûr des facteurs de risque, génétique, exposition solaire et nous aborderons aussi la prévention, gestes, accessoires, produits pour éviter si possible ces lésions cutanées. Dépistage, protection, précaution, éviter l'exposition des sujets les plus vulnérables en fonction de leur âge ou de leur pigmentation et pointer le cas particulier des populations particulièrement à risque, comme les personnes atteintes d'albinisme, risque accru en raison de ce déficit de production de mélanine, alors que le 13 juin est précisément placé sous le signe de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Prévention et prise en charge des cancers de la peau. Pour en parler avec nous en studio, professeur Nicolas Dupin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de dermatovénérologie à l'hôpital Cochin à Paris, Université Paris-Descartes, directeur du centre de santé sexuelle de l'Hôtel Dieu et auteur, professeur Dupin, de « Mon ami la peau », publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous allons joindre au Cameroun tout à l'heure le docteur Angélique Njemen, dermatologue vénérologue à l'hôpital Linkétini de Douala, vice-présidente de la Socaderm, Société camerounaise de dermatologie. Et puis nous parlerons traitement novateur, innovation dans ce secteur avec le professeur Caroline Robert, chef de service de dermatologie à Gustave Roussia, Villejuif en région parisienne. Et en fin d'émission, on va retrouver le docteur Catherine Solano, sexologue, qui va répondre aux questions des auditeurs de Priorité Santé. Vous le savez, vous pouvez nous joindre au 33 84 22 75 75 et nous adresser vos messages sur la page Facebook de l'émission, en laissant vos coordonnées pour que l'on vous rappelle.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Nicolas Dupin, 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau diagnostiqués en France chaque année. Ces cancers sont en augmentation. Est-ce que l'on sait dans quelle proportion ?
Alors, dans quelle proportion ? C'est d'abord, ce chiffre de 80 000 est peut-être sous-estimé, puisque tous ces cas de cancer ne sont pas forcément déclarés. Les cancers de la peau, en fait, sont en augmentation depuis plusieurs années maintenant, et en particulier le mélanome, probablement par effet indirect et ancien de l'exposition solaire des années 60, 70, 80. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que notre pays, notre population vieillissante fait qu'il y a une augmentation de ces autres cancers de la peau qui sont beaucoup plus fréquents que l'on appelle les carcinomes. Parce qu'il faut, quand on a dit cancer de la peau, c'est très vaste et c'est très imprécis. Finalement, on distingue les cancers qu'on appelle le mélanome, qui est, je dirais, le cancer qui peut être très agressif. À côté, les carcinomes, et dans les carcinomes, il y a les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes qui, là aussi, n'ont pas le même pronostic, alors que le carcinome basocellulaire est généralement un cancer qui n'envahit pas les tissus aux alentours. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus restreint. Donc il y a une augmentation qui est liée effectivement aux effets exogènes de l'exposition solaire et puis au vieillissement des populations.
Alors il y a une forme de hiérarchie, on l'a compris, en termes de sévérité, professeur Dupin. C'est quoi le risque essentiel ? C'est la dissémination dans l'organisme ? C'est quoi ?
C'est tout à fait ça. Alors, il faut revenir un petit peu quand même à ce que c'est qu'une peau, parce qu'une peau, c'est pas si simple que ça. Et effectivement, il y a différents types cellulaires. Et dans la peau, il y a ce qu'on appelle les mélanocytes. Les mélanocytes dont le rôle est véritablement de sécréter en particulier une petite substance qui s'appelle la mélanine, qui va se mettre autour des autres cellules, autour des noyaux des autres cellules, pour les protéger principalement du soleil. Donc ces mélanocytes, c'est à peu près 10% des cellules qu'on retrouve dans le mur épidermique, qui est donc la partie la plus superficielle de la peau. Il y a les kératinocytes, et ces kératinocytes vont donner lieu à deux types de cancers, les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes. En termes de, je dirais, d'agressivité, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le mélanome, tant qu'il reste, je dirais, dans la partie superficielle de la peau, c'est-à-dire dans l'épiderme, il n'y a pas grand risque, parce qu'il n'y a pas de vaisseau dans cette structure-là. Donc, tant que les mélanocytes malins, c'est-à-dire ces cellules malignes, n'ont pas rencontré les vaisseaux sanguins, il y a peu de risque, et ni les vaisseaux lymphatiques, il y a peu de risque de dissémination. C'est quand la tumeur plonge, franchit la barrière, la frontière entre l'épiderme et le tissu qui est juste en dessous, qui s'appelle le derme, que alors ces cellules vont rencontrer des structures qui vont peut-être permettre la dissémination, d'abord dans les ganglions, puis éventuellement plus loin dans d'autres organes par les vaisseaux sanguins. Donc c'est vraiment, en termes pour le mélanome, l'épaisseur du mélanome, et c'est le critère le plus important, et ça n'a pas changé depuis 30 ans, on utilise toujours ce même paramètre pour juger de l'agressivité du mélanome. D'où l'importance d'un dépistage précoce de ce type de tumeur.
On comprend bien, plus le temps passe, plus le risque augmente.
Tout à fait, plus le temps passe, plus la tumeur va se développer dans la partie superficielle, mais va franchir cette barrière et envahir les tissus. Et là, bien sûr, le pronostic est inversement proportionnel à la taille de la tumeur. C'est-à-dire que plus le mélanome est épais, moins la chance de survie est importante à distance, 5 ans ou 10 ans.
Il y a tout un tas d'idées reçues sur ces cancers de la peau. Je vais en passer quelques-unes de ces idées en revue. On associe souvent les cancers de la peau aux grains de beauté. Est-ce que c'est correct, professeur Dupin ?
Alors, c'est correct et pas correct. C'est toujours pour le mélanome. Effectivement, il est clair que dans les facteurs de risque qui sont associés au risque de développer un mélanome, on sait que d'avoir beaucoup de grains de beauté est un sur-risque d'avoir un mélanome. Mais je tiens à préciser que dans mon expérience personnelle, et je pense que je le partage avec plusieurs de mes collègues, j'ai eu des patients avec des mélanomes agressifs qui n'avaient pas d'autres grains de beauté. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de grains de beauté que vous avez un seul grain de beauté, et ce grain de beauté, ça peut être le vilain canard, et effectivement, il peut évoluer défavorablement. Donc le rôle du dermatologue, c'est de distinguer entre le grain de beauté qui est un grain de beauté, c'est aussi une tumeur, une tumeur bénigne qui est liée aussi à un développement de mélanocytes en excès. Certains de ces grains de beauté vont peut-être devenir des cancers de la peau comme un mélanome, mais la plupart du temps, vous allez vivre très bien en harmonie avec vos grains de beauté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart du temps, le mélanome ne survient pas par transformation d'un grain de beauté. C'est peut-être à peine 20% des mélanomes qui surviennent par transformation d'un grain de beauté. Donc il y a des gens qui me disent « Oh, j'ai écorché mon grain de beauté, je suis très inquiet, j'ai un grain de beauté. » Non, ça indique qu'il faut peut-être faire quelque chose, voir un spécialiste, un dermatologue. S'il y a un grain de beauté qui saigne, voir éventuellement un dermatologue. Pourquoi ? Parce que ce grain de beauté qui saigne, c'est peut-être pas simplement un grain de beauté, c'est peut-être déjà un mélanome. Mais il faut savoir que 80% des mélanomes surviennent sans qu'il y ait un grain de beauté avant.
Alors, autre question, autre idée reçue, est-ce que attraper un coup de soleil, c'est toujours dangereux, professeur Dupin ?
Eh ben, moi, c'est ce que je dis. On passe 11 mois de sa vie à se protéger du soleil et tout d'un coup, on va s'exposer de façon intempestive et de façon agressive. C'est comme si vous buviez jamais et puis tout d'un coup, vous prenez 2 bouteilles de vodka.
C'est l'excès.
C'est l'excès qui est mauvais. Et le coup de soleil, malheureusement, on le paye plus tard. Et on sait que le coup de soleil, ben, c'est un facteur de risque, dans l'enfance notamment, c'est un facteur de risque de mélanome plus tard. C'est aussi un facteur de risque de carcinome basocellulaire. Donc c'est vrai que les coups de soleil, dont témoignent, vous savez, ces petites taches qu'on peut avoir. Je dis que la peau a une mémoire. La peau a une mémoire, pourquoi ? Parce qu'on a des petites taches, pigmentées, qui ressemblent à des grains de beauté, mais qui sont un tout petit peu plus claires. On dit qu'elles sont chamois, couleur chamois, du poil du chamois. Et ben, ces petites taches témoignent simplement que vous avez eu des coups de soleil. Et lorsque je vois quelqu'un qui me dit non, je me suis jamais exposé et qu'il y a plein de petites taches, je le vois bien parce que il suffit de regarder le décolleté, le haut du dos, et on sait qu'a priori il y a eu des coups de soleil.
Alors, il y a d'autres facteurs, hein. On l'a entendu tout à l'heure quand vous disiez justement cette exposition pendant l'enfance, professeur Nicolas Dupin, c'est bien sûr la vulnérabilité de la peau en fonction de l'âge de l'exposition, et puis bien sûr la pigmentation.
Bien sûr. Alors, on n'est pas tous égaux, forcément. Il y a une distinction. Bah, le roux avec une peau blanche et qui a beaucoup de taches de rousseur, eh ben, il fabrique une mélanine qui est pas très efficace, en fait, qui le protège pas très bien, et voire qui serait un petit peu délétère. Pourquoi? Parce que elle favoriserait ce qu'on appelle le stress oxydant dans la peau, et ça, c'est pas très très bon pour les cellules. Ça facilite la dégénérescence. Et puis, bien sûr, il y a des gens à peau très pigmentée. Par exemple, les sujets à peau noire, ben, sont en partie protégés, mais ils sont pas complètement protégés. Et ça, je pense que c'est important d'aborder cela, car c'est vrai qu'effectivement, on voit aussi des cancers de la peau chez les sujets à peau très pigmentée. Mais bien sûr, on n'est pas tous égaux. Et plus on a une peau claire et qu'on prend des coups de soleil, plus on est à risque de développer des cancers de la peau.
Vous restez avec nous, professeur Dupin. Tout de suite, un témoignage. Ce témoignage, c'est celui d'Astrid. Elle est âgée de 44 ans. Son premier mélanome a été diagnostiqué il y a 7 ans. Un second, 2 ans plus tard, à l'âge de 39 ans. Et après 3 opérations en l'espace de 3 mois, ses médecins l'ont déclarée en rémission. Elle reste évidemment sous étroite surveillance.
Alors, le premier cancer de la peau, c'est mon mari qui a remarqué que j'avais un grain de beauté noir sur le visage et qui fonçait de plus en plus. Ça, c'était un mélanome de Dubreuil qui a été pris rapidement et qui n'était pas trop méchant. J'ai eu un suivi après onco suite à ça pendant 2 ans. Je me suis rendu compte un matin qu'il y avait un grain de beauté qui avait changé. J'ai alerté mon oncologue pour lui dire ce grain de beauté se modifie. Il m'a dit que c'était pas grave. Je l'ai alerté une seconde fois 6 mois plus tard, parce que je trouvais vraiment qu'il avait changé. J'ai décidé d'aller consulter mon dermatologue de ville qui m'avait dépisté mon mélanome de Dubreuil, qui a décidé de me le retirer immédiatement.
Et ensuite, quelle a été la prise en charge de ce cancer de la peau ?
Après la biopsie du grain de beauté, même s'il était enlevé complètement, il faut à ce moment-là élargir les marges. Donc moi, il était situé sur le ventre. Bon, on le voyait enlevé à peu près 10 cm de largeur et 20 cm de long. Donc ça fait vraiment une grosse cicatrice. Donc on a enlevé de grosses marges. Et à la suite de ça, après, j'ai eu une petite récidive sur la cicatrice. On n'a pas voulu prendre de risque, donc on a de nouveau opéré sur la cicatrice pour enlever l'excédent de peau, ce qu'on appelle des marges. En fait, on refait des marges. Et entre les deux, on s'est rendu compte que j'avais un ganglion touché, donc il a fallu enlever toute la chaîne ganglionnaire du bras gauche. Donc de nouveau opération pour enlever cette chaîne ganglionnaire.
Et aujourd'hui, quel est le suivi médical ?
J'ai eu rendez-vous tous les 3 mois et j'ai toujours rendez-vous régulièrement à l'hôpital Saint-Louis à Paris, où je suis rentrée dans un protocole avec un outil, une machine, qu'on appelle le PhotoFinder. Le PhotoFinder permet une surveillance pour les gens qui ont de nombreux grains de beauté atypiques comme moi. C'est comme un microscope, en fait, qu'on vous colle sur les différents grains de beauté. Et on arrive à voir ce que l'œil ne voit pas et permet de voir toutes les modifications qui ont été faites en 3 ou 6 mois. Donc ça permet d'anticiper, d'enlever les grains de beauté qui sont suspects ou en tout cas qui se modifient. Mais ça permet d'éviter de prendre des grains de beauté trop tard. Après, j'ai des échographies régulières, des scanners et des IRM.
Et donc ce cancer de la peau, cette récidive et ces différentes opérations, quelles répercussions psychologiques ça a eu sur vous ?
Alors le diagnostic pour le deuxième mélanome, c'était un petit peu la douche froide. Je me suis vite rendu compte que le diagnostic n'était pas bon. Quand on m'a parlé de Breslau, quand le médecin m'a téléphoné, j'étais en vacances loin, en me disant que la prise en charge allait se faire tout de suite quand j'allais arriver à Paris, que j'étais déjà passée en staff, enfin les choses s'accéléraient. Et quand je regardais les traitements qu'on pouvait avoir pour soigner le mélanome, c'était chimio, c'était radiothérapie, immuno, en fait je trouvais rien, donc j'ai vite paniqué en me disant zut, il n'existe rien. Et pour moi c'était très stressant, mais je m'attendais pas à avoir le ganglion touché. Ça c'était une spirale, la spirale de l'enfer. La prise en charge psychologique, les annonces se sont faites d'abord pour mon dermatologue de ville, qui a été vraiment super, qui m'a reçue avant que j'aille à l'hôpital, enfin, qui a vraiment toujours été très proche de moi et qui m'a accompagnée dans mes démarches, Moi, on m'a intégrée dans un protocole d'essai thérapeutique quand je me suis faite opérer. C'était de l'immunothérapie à l'époque, qui maintenant est sur le marché. Pour moi, c'était pas mal d'espoir, même si je savais qu'il y avait une chance sur deux que le médicament marche ou pas. Et en fait, on voit sa vie défiler en l'espace de 30 secondes. Moi, quand j'ai eu mon résultat, j'ai vu ma vie défiler. Je savais ce que je voulais, ce que je voulais plus. Ça, c'était une certitude. J'étais un peu déboussolée. À côté de ça, j'avais la soif de vivre aussi. Je me disais, oh, super, il fait beau. Les choses que je voyais plus, je les voyais. Après, moi, mes modes de vie ont aussi beaucoup changé. Le soleil n'est plus mon ami. Ne l'a jamais été parce que je suis blonde, j'ai les yeux bleus, donc ça, j'ai jamais bronzé, j'ai toujours rougi. Mais au-delà de ça, même pour mes enfants, alors je veux pas leur changer complètement leur mode de vie. On recommence à partir au soleil, mais c'est avec de l'écran total en permanence. Moi, je vais jamais à la plage, j'ai toujours des chapeaux. J'ai de l'écran total du 1er janvier au 31 décembre. Si j'avais le moindre doute, oui, je foncerais chez mon dermato. Mais je suis tellement suivie que ça me paraîtrait assez injuste si on passait à côté de quelque chose.
Témoignage d'Astrid au micro de Raphaël Constant. On vous retrouve, professeur Nicolas Dupin. Ce qu'on a entendu avec ce témoignage, c'est est-ce que lorsque l'on détecte une première lésion, il va falloir systématiquement s'inquiéter d'un risque de récidive? Est-ce qu'on devient en gros un sujet encore plus à risque?
Alors, il faut pas s'inquiéter. Il faut faire confiance aux gens qui...
On comprend, mais c'est pas toujours facile.
Il faut être sensibilisé. Mmh. Et vous savez que qui a eu un mélanome a plus de risques d'en avoir un deuxième. Ça, c'est vrai. C'est ce qui est arrivé à Astrid. Et il y a des mélanomes. D'ailleurs, il y a une susceptibilité génétique. Il y a, dans 10% des cas, des mutations de certains gènes qui sont associées éventuellement à ce risque de mélanome. Première chose. Deuxième chose, toute personne qui a fait un mélanome doit être donc surveillée, et ce, à vie. À vie, avec un rythme de surveillance qui dépend là encore de l'épaisseur dont parlait Astrid, dont je vous ai parlé avant, qui est ce bracelet. Et en fonction de l'épaisseur, on va faire une marge de sécurité et on va imposer une surveillance qui est en gros tous les 6 mois ou tous les 3 mois pendant des périodes données. Et puis de toutes les façons, après, c'est à vie.
D'accord, on comprend bien que quand ça commence, il faut vraiment rester vigilant, avoir un dermatologue ou un service hospitalier avec lequel on va avoir un contact permanent.
On voit bien que Astrid a été très bien, je dirais, prise en charge par son dermatologue de ville. Et ce qui est très important, c'est que le dermatologue de ville a un relais hospitalier pour des formes plus compliquées, ce qui est arrivé à Astrid avec cette atteinte ganglionnaire, et puis la mise en place d'un protocole, puisque maintenant il y a des traitements très efficaces contre le mélanome métastatique.
Alors, on va tout de suite rejoindre le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on vous retrouve, docteur Angélique Njemen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes dermatologue vénérologue à l'hôpital La Quintinie de Douala. Première question, oui. Docteur Djemène, sur les cas de cancer cutané que vous prenez en charge. Tout à l'heure, justement, avec le professeur Dupin, on a très rapidement abordé la question des spécificités des peaux noires. Déjà, est-ce que ces cancers sont fréquents lors de vos consultations?
Non, les cancers cutanés sont rares en consultation dermatologique, hein. Donc, la moyenne est moins de 2%. 2%.
Est-ce que la population connaît ce risque?
Non. En général, les Africains, ici chez nous, les gens se disent que les cancers cutanés ne concernent que les peaux blanches. Donc, les fréquences rencontrées sont chez les peaux albinos, chez les albinos.
Mais tout à l'heure, vous disiez 2% chez les peaux noires, docteur Njemen. On imagine, oui. Si les gens ont peu connaissance justement de ce risque, ça veut dire que dans beaucoup de cas, les diagnostics doivent être assez tardifs.
Oui, très souvent, c'est la douleur qui amène les malades à consulter, hein.
Et justement, professeur Nicolas Dupin, on n'a pas parlé de ce facteur de douleur, on a un peu parlé du repérage visuel. Est-ce que parfois les lésions font mal, sont douloureuses?
Les lésions, comme tout cancer, peuvent être douloureuses, surtout si elles ont des localisations, par exemple sur des zones d'appui. Je crois, par exemple, en Afrique, le mélanome a une localisation, par exemple, talonnière, et je pense que les gens viennent tardivement, parce qu'au début, c'est peut-être pris pour des verrues ou simplement des plaies, et puis c'est lorsque ça va envahir le tissu sous-jacent que ça peut être sujet à donner des douleurs.
Alors justement, on a parlé tout à l'heure de ce fameux facteur temps sur l'aggravation de la situation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pointer, professeur Nicolas Dupin, la précocité du diagnostic, dont le dépistage est vraiment l'un des ingrédients principaux, c'est vraiment essentiel.
Mais c'est ce qui a été mis en place depuis plusieurs années en France et ce qui explique probablement l'augmentation du nombre de mélanomes aussi. C'est-à-dire que non seulement il y a peut-être les effets du soleil d'il y a 20 ou 30 ans, mais il y a aussi le fait qu'il y a une sensibilisation des dermatologues et donc de la population à dépister les lésions précoces. Et on a entendu parler dans le témoignage d'Astrid de ces systèmes de surveillance, maintenant de protocoles, de photo finder. Globalement, on s'aide effectivement d'une espèce de loupe qui permet d'être digitalisée et numérisée et qui va permettre d'analyser plus finement les modifications des lésions pigmentées. Donc effectivement, le facteur temps est essentiel et c'est effectivement plus, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plus la tumeur est profonde, plus le risque de dissémination est important.
Alors on a aujourd'hui le 13 juin, journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Précisément, docteur Angélique Jemaine, vous avez dit tout à l'heure, les personnes les plus concernées par les cancers de la peau sur le continent africain, eh bien ce sont les personnes atteintes d'albinisme, maladie rare qui affecte la pigmentation de la peau, mais aussi des cheveux et des yeux. Ils sont donc directement concernés par le risque de cancer cutané. Vous en prenez en charge dans votre service ?
Oui, et c'est selon l'étendue de la lésion. On a affaire à un carcinome de grande taille, on les envoie en oncologie, en cancérologie, pour une meilleure prise en charge.
Et ces patients, en général, ils ont quel âge ? Ce sont plutôt des enfants ou des sujets âgés ?
Très souvent, ce sont des adultes, hein. Des adultes, des jeunes étudiants et même des adultes. Donc, chez nous ici, chez les albinos, le cancer le plus rencontré, et même par ailleurs un peu partout chez les albinos, c'est le carcinome basocellulaire.
Qui est directement associé à l'exposition solaire, professeur Nicolas Dupin.
À l'exposition solaire.
Tout à fait.
À une forte exposition solaire.
On parle de phototype, on a donc ces personnes à pigmentation très claire. Dans la région européenne, on peut aussi avoir des blonds, des rouquins, des personnes avec des taches de rousseur. On a l'image des personnes qui viennent des pays scandinaves ou encore d'Écosse ou de Grande-Bretagne. Ces personnes, on peut dire que dans la plupart des cas, ces personnes, notamment quand elles sont enfants, doivent, professeur Dupin, prendre des précautions particulières en cas d'exposition ?
En cas d'exposition, ils devraient éviter les expositions.
Quand on est un enfant, on joue dehors.
On évite de sortir entre, je dirais, 10h30, 11h et 16h en plein été. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas voir des enfants sur les plages et exposés à ces périodes de l'année fortement aux UV. Pourquoi ? En plus, parce que le rayonnement solaire, il n'est pas uniforme dans le monde et que le rayonnement solaire, c'est plus compliqué qu'on le pense. Il y a les UVA, il y a les UVB. Et les UVB, c'est particulièrement érythémogène et c'est particulièrement cancérigène. Et c'est ceux-là qui vont donner le coup de soleil et c'est ceux-là qui vont peut-être donner des cancers de la peau. Donc la meilleure protection, elle est quand même vestimentaire. Je dirais qu'il faut pas oublier que vous allez vous baigner, vous défaites votre t-shirt et puis après vous en mettez. Alors on sort bien sûr de nouveaux textiles qui sont UV free et protecteurs, mais je pense que véritablement, il faut certainement que les enfants en particulier soient non exposés à des fortes rayonnements, à des forts rayonnements UV.
Alors justement, pour revenir aux personnes concernées par l'albinisme, docteur Angélique Jemaine, est-ce que vous avez l'impression que les personnes et notamment les parents, puisque le risque d'exposition commence bien sûr dès les premières années, est-ce que vous avez l'impression que les parents sont de mieux en mieux informés ?
Non. Les parents ne sont pas véritablement informés parce qu'ici, les gens pensent que les albinos ne doivent pas seulement consommer tel ou tel aliment, à savoir les crustacés, les oléagineux, l'huile de palme. Ils oublient que l'ennemi de l'albinos, c'est le soleil. Donc, souvent, on rencontre des albinos qui jouent en plein soleil. Les parents qui n'adaptent pas les activités extrascolaires des enfants en fonction du soleil. Donc, il y a ce problème.
Professeur Dupin, Angélique Jemaine, on va tout de suite prendre un auditeur en ligne et je pense justement qu'on pourra échanger avec lui dans un instant.
RFI.
Auditeur et responsable d'association, on va l'entendre. Il est à Calavi, au Bénin. C'est Firmin Akpo. Bonjour Firmin Akpo.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes à la tête de l'ONG de l'association Valeurs Albinos. Alors d'abord, expliquez-nous l'essentiel de vos travaux. Quelles sont vos activités?
Ok, merci bien. Bon, nous sommes, je tiens à vous informer que nous sommes la toute première institution à s'occuper véritablement des personnes atteintes de l'albinisme au Bénin depuis une dizaine d'années. Donc, nous sensibilisons les géniteurs d'enfants albinos et afin de leur faire éviter le soleil. Pour éviter le soleil. Parce que le soleil demeure le pire ennemi de la personne atteinte de l'albinisme. Et les parents d'enfants albinos ne le savent souvent pas. Alors, nous avons quand même pu faire des actions concrètes à l'endroit de ces enfants, parce que nous nous occupons particulièrement des enfants, en leur donnant de temps à autre des crèmes solaires et des lunettes. Nous les conseillons aussi de porter des chapeaux à bord large afin d'éviter la pénétration des rayons solaires dans leur visage.
Et comment est-ce que vous faites passer l'information? Vous avez des équipes qui vont directement à la rencontre des enfants ou vous avez des supports justement pour faire passer toutes ces mesures de sensibilisation?
Ok, très bien, je vous remercie. Et nous avons réalisé un téléfilm récemment, un téléfilm appelé Luna, avec les fondations hollandaises Sorbet d'Or, de Sandra Van Der Der et Happy Made By. Alors, nous avons fait l'adaptation audiovisuelle de ce livre parce que nous avons constaté que la plupart du temps, les gens n'aiment plus lire. Voyez-vous? Donc, nous avons adapté le livre. Et actuellement, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons dans les écoles, dans les communes et dans les grandes villes aussi. Nous projetons le téléfilm en Luna et puis nous sensibilisons par la suite la population qui, la plupart du temps, est analphabète et n'est pas souvent informée sur les dangers qui guettent les personnes atteintes de l'albinisme.
Et justement, pour le Bénin, on sait quelle partie de la population est concernée justement par l'albinisme au Bénin? Firmin Akpo, est-ce que l'on sait quelle partie, quelle proportion de la population est concernée par l'albinisme au Bénin?
Oui, nous avons environ 2500 personnes atteintes de l'albinisme ici au Bénin.
Merci beaucoup pour ce témoignage et pour votre action, donc la diffusion de ce film au cœur des communautés. Docteur Angélique Djemène, vous aussi au Cameroun, on imagine il y a des associations qui peuvent directement faire ce travail, en plus des médecins, ce travail de sensibilisation.
Oui, bien sûr. Oui, nous travaillons même beaucoup avec l'association des femmes albinos. Donc, qui militent beaucoup pour cette cause et nous organisons des campagnes de consultation gratuites en dermatologie et en ophtalmologie de façon en général deux fois par an. Et puis, cette association également organise des activités pour sensibiliser davantage les populations sur l'albinisme, sur les risques de survenue des cancers chez les albinos.
Professeur Nicolas Dupin, ce qu'on voit en tout cas, c'est que il y a une double contrainte sur le continent africain pour les personnes atteintes d'albinisme. Il y a bien sûr le problème d'information avec tout ce qui relève aussi de la stigmatisation qui est absolument épouvantable des personnes atteintes d'albinisme, toutes ces fausses croyances qui mettent même parfois leur vie en danger. Et puis il y a aussi tout simplement l'accès aux accessoires, produits solaires, une casquette, un t-shirt, des produits couvrants, tout ça c'est pas toujours à la portée du plus grand nombre.
Tout à fait, je suis tout à fait admiratif des moyens qui sont mis en place par ces associations et qui ont un langage simple. C'est vrai que changer son alimentation pour éviter d'avoir des cancers de la peau, c'est pas inintéressant, mais d'abord commencer à éviter d'être exposé au soleil, c'est la chose la plus importante à faire. Et je pense que ça nécessite effectivement une sensibilisation de la population, là par des moyens plus modernes, puisqu'effectivement on nous explique que le problème de la lecture est dans ces populations-là quelquefois difficile. Les films, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que ça marque l'image, ça marque. C'est une maladie stigmatisante. J'ai écrit ce livre justement, Mon ami la peau, pour justement essayer de qu'on s'habitue à ces maladies de peau qui sont l'albinos en est un facteur d'isolement social. Essentiel, très important, et qu'il faut absolument éduquer la population à prendre soin de l'autre, et en disant justement, quand vous voyez un enfant albinos qui joue en plein soleil sans protection au football et torse nu, juste lui expliquer qu'il faudra mettre une casquette et mettre voir un chapeau, mais c'est plus difficile pour le sport. Et ça, c'est des choses importantes, je pense.
Et le ramener à une réalité médicale, professeur Dupin, c'est aussi un premier pas pour retirer toutes ces fausses croyances. C'est un problème de peau. Point final, c'est un problème d'yeux, de pigmentation, oui. Et pas autre chose.
Tout à fait.
Et c'est ramené à la réalité.
C'est ramené à la réalité.
Alors justement, on parle de dépigmentation. Je vous demanderai aussi après de réagir à cette question. C'est une question Facebook, docteur Angélique Jemaine. Vous êtes toujours avec nous en ligne de Douala. C'est une question de Déporte hein, qui est à Conakry en Guinée. Et il nous demande, et c'est important cette question parce que pas mal de nos auditrices et nos auditeurs sont concernés, est-ce que la dépigmentation de la peau, avec tous les produits qu'on connaît, un certain nombre qui sont d'ailleurs carrément toxiques, est-ce que la dépigmentation peut entraîner des cancers de la peau ? Oui, professeur Dupin, c'est bien à vous que je m'adresse.
Donc, cette question, elle est oui. Oui, parce que il faut revenir à la base, sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure, cette protéine, la mélanine, qui est sécrétée par les mélanocytes pour protéger les noyaux des cellules, des briques qui forment l'épiderme, c'est-à-dire la couche la plus superficielle de la peau. Et bien, à partir du moment où vous utilisez des substances qui vont diminuer la production de cette mélanine, vous exposez les gens et les personnes que vous allez, ou qui s'auto-traitent, malheureusement, elles s'exposent elles-mêmes à avoir une rupture de cette protection. Et si, la peau est là pour nous protéger. Si on détruit la chimie de la peau, eh ben alors on s'expose à un surrisque. Je me souviens très très bien d'un poster qui avait été primé d'une de nos collègues de pays africains qui avait effectivement démontré, enfin qui avait rapporté le cas de carcinome basocellulaire survenant sur des zones de dépigmentation volontaire en utilisant des crèmes qui sont, on le sait, à base de chimie, qui peuvent être... Donc ça peut être fait lorsqu'il y a une pigmentation, mais lorsque c'est juste utilisé à visée cosmétique, on sait qu'on s'expose à un risque.
Et c'est quelque chose aussi que vous constatez en consultation, docteur Angélique Jemaine, hein, ce sera ma dernière question. Société camerounaise de dermatologie dont vous êtes la vice-présidente, est-ce que vous alertez spécifiquement sur ces risques associés à la dépigmentation ?
Oui, on commence déjà à constater des cas de carcinome survenu sur terrain de dépigmentation volontaire. À Yaoundé, un de nos collègues, le docteur Defo, a décrit un cas. Et au Sénégal, le professeur Fatouma Tali a décrit environ 2 à 3 cas de carcinome survenus sur dépigmentation chez des femmes.
Donc,
chez des femmes adultes.
C'est une vraie préoccupation. Vous, merci beaucoup, hein, docteur Angéline Jemaine, d'avoir été en ligne avec nous de Douala.
RFI à Douala, 97.8 FM.
En quelques mots sur cette question, mais je voulais quand même l'aborder, les salons de bronzage, le bronzage artificiel. Professeur Nicolas Dupin, on a entendu d'un côté ceux qui veulent se dépigmenter, de l'autre côté ceux qui veulent se pigmenter. Mais là, par contre, en France, hein, la réglementation a changé.
La réglementation a changé et normalement, c'est devrait être interdit.
Reconnu. Il en reste encore quelques-uns d'ouverts.
Il en reste quelques-uns d'ouverts, notamment pas loin de chez moi, et je trouve qu'ils font trop le plein. C'est interdit.
Donc voilà. Il faut faire passer l'information. Oui. Hein, le bronzage en salon de bronzage, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé pour la santé.
C'est quelque chose qui est carrément associé à un surrisque de cancer de la peau. Ça a été démontré dans des études américaines, dans des études australiennes.
Alors, les cancers de la peau et les traitements innovants, on va en parler tout de suite avec les résultats de nouvelles thérapies qui ont été présentées la semaine dernière à Chicago, où s'est tenu le congrès mondial du cancer organisé comme chaque année par l'Association des cancérologues américains. Et donc, à l'occasion de ce congrès auquel vous venez de participer, des résultats ont été présentés. Professeur Caroline Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de dermatologie et co-directrice de l'équipe mélanome dans l'unité INSERM U981 à Gustave Roussy à Villejuif. Nous avons enregistré cet entretien. Professeur Caroline Robert, quel type de tumeur de la peau est ciblé par cette nouvelle thérapie ou plutôt cette bithérapie ?
Oui, on parle ici du mélanome. Mélanome, c'est le cancer qui ressemble un peu à un grain de beauté au départ, sauf que c'est pas du tout comme un grain de beauté. C'est un cancer qui peut être très dangereux parce qu'il peut donner des métastases et il peut être malheureusement même mortel dans un certain nombre de cas si on ne le reconnaît pas assez vite. Et c'est un cancer qui était connu pour être très agressif quand il était métastatique. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 7-8 ans, on n'avait pas vraiment de traitement efficace. Et au cours des dernières années, là, des 7-8 dernières années, on a eu le bonheur de voir se développer des stratégies thérapeutiques, deux notamment, d'une part les thérapies ciblées et d'autre part l'immunothérapie. Et ces deux approches, qui sont très différentes, nous donnent toutes les deux des résultats encourageants sur un certain nombre de patients, malheureusement pas tous. Et du coup, c'est important de rappeler qu'on n'a pas fini de chercher pour améliorer les traitements dans le mélanome. Parfois, comme on a été tellement enthousiasmé par les progrès, il y a des gens qui pourraient croire à tort que c'est réglé. Pas le cas, mais c'est vrai qu'on est déjà très très content.
Avec des résultats donc pour cette bithérapie ciblée, très concrètement, comment ce traitement, professeur Caroline Robert, est-il administré aux patients ?
Alors, on parle ici du sous-groupe de mélanome, qui est quand même assez important, puisqu'il représente à peu près la moitié des cas de mélanome, qui comporte une certaine mutation, qu'on dit la mutation de BRAF. Et donc la moitié de nos patients ont des mélanomes qui sont porteurs d'une mutation de ce gène, qui conduit à une protéine qui est une enzyme qui est très activée et qui est directement impliquée dans le processus cancéreux. Et le traitement donc ciblé, en fait, il cible cette mutation. Et donc c'est un médicament anti-BRAF, mais pour le rendre encore plus puissant, on l'associe à un autre médicament. Ce sont des comprimés. Ces deux médicaments, tous les jours, donc c'est un traitement continu qui est quand même assez bien toléré dans la grande majorité des cas. Et en prenant cette thérapie ciblée, quand on est porteur donc d'un mélanome avec mutation de BRAF métastatique, on a 70% de chances d'avoir une bonne réponse, c'est-à-dire une diminution très significative de la taille des métastases, voire, dans 20% des cas, une disparition de toutes les métastases visibles au scanner.
Et dans ce cas-là, on arrête le traitement ?
Non. Alors ça, c'est important de le dire, c'est un traitement qui doit être poursuivi, parce que malheureusement, ça revient si on arrête dans la grande majorité des cas. Déjà, parfois, malheureusement, le traitement n'est plus efficace, donc la maladie revient alors même qu'on prend le traitement. Ça, c'est le problème des résistances. Vous savez, les cellules cancéreuses, elles, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est des cellules malignes. Enfin, elles trouvent des moyens pour s'échapper au traitement. Et malheureusement, on a ce qu'on appelle des résistances secondaires, c'est-à-dire des patients qui, au début, dont le cancer répond bien, et puis tout d'un coup, ça repart. Donc on ne l'arrête pas, pour répondre plus précisément à votre question. Et c'est une question importante. Pourquoi ? Parce que l'autre stratégie thérapeutique, qui est l'immunothérapie, quand on a des très bonnes réponses, donc qu'on appelle les réponses complètes, la grande différence, c'est qu'on peut arrêter le traitement. Et on a suivi les patients pendant 5 ans, 6 ans. On commence à avoir chez certains patients qui ont arrêté le traitement par immunothérapie, un espoir qu'ils n'auraient plus jamais besoin de traitement. Donc c'est un petit peu ce qui ressemble à une guérison, même si on a un peu du mal encore à dire à nos patients qu'on est sûr qu'ils sont guéris, on espère bien. Alors avec les thérapies ciblées, là les résultats qui ont été annoncés, c'est des résultats qui nous montrent qu'après 5 ans de suivi médian, on s'aperçoit que chez les patients qui ont débuté le traitement par cette bithérapie ciblée, on a à peu près 20% des patients dont le cancer n'a pas reprogressé, n'ont pas été obligés de changer de traitement, et on a un tiers des patients en vie. Alors vous allez me dire, ah ben c'est décevant, seulement un tiers. Mais je vous rappelle encore une fois d'où on part. On part, il y a 7 ans, de à peu près un quart des patients en vie à un an. Là, on est à 5 ans et on a un tiers des patients qui sont en vie, 20% des patients qui sont sans progression, qui prennent toujours le traitement et qui sont bien sous ce traitement et pour qui la maladie est toujours sous contrôle. Ces 20% de patients qui répondent complètement, dans les patients qui sont à 5 ans en forme, c'est beaucoup des patients qui ont répondu complètement.
Merci beaucoup, professeur Caroline Robert. Je rappelle que vous êtes chef de service de dermatologie, co-directrice de l'équipe Mélanome dans l'unité INSERM U980 à Gustave Roussy à Villejuif. Professeur Nicolas Dupin, on se retrouve pour la conclusion de notre échange sur cette émission de Priorité en Santé consacrée au cancer de la peau. Est-ce qu'on a des données sur le caractère évitable de ces cancers, c'est-à-dire ceux qui sont directement associés à nos comportements, à notre exposition, ou d'autres sur le caractère génétique où on ne fait pas la différence entre les deux finalement?
Alors c'est difficile. Alors c'est sûr que si on a une mutation dans nos gènes qui est associée à un surrisque de mélanome ou de carcinome, parce qu'on a parlé de l'albinisme tout à l'heure, mais il y a d'autres maladies comme le xéroderma pigmentosum qui sont les enfants de la lune, vous savez, qui sont là aussi surexposés à des cancers et en particulier des cancers de la peau. Bien sûr, là il faut, quand on est mal parti sur le plan génétique, il faut encore plus se protéger et éviter les expositions solaires. Ça, c'est clair, hein, c'est et une évidence. Mais il n'y a pas tellement d'autres moyens que de diminuer la principale cause. Hein, quand on a une cause assez évidente, quand on a un sur-risque, ben, il faut éviter de s'exposer.
Et un rappel, c'est peut-être une évidence, mais c'est important de le dire, professeur Nicolas Dupin, l'écran total n'existe pas en crème solaire. Hein. Il n'y a pas d'écran total.
L'écran total, c'est rester chez soi.
Voilà, c'est rester à l'intérieur.
Voilà.
Donc même s'il y a un indice de protection très élevé, oui, c'est pas pour autant qu'on doit s'exposer n'importe quand, n'importe comment.
Tout à fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, l'indice de protection maximale qu'on peut connaître, c'est 50. Donc si on vous dit écran total, c'est de toutes les façons un IP, un indice de protection de 50, c'est tout.
Mais qui n'empêche pas de se mettre à l'abri au plus fort de la journée des rayonnements
solaires.
Bien
entendu, ça fait partie des bonnes règles, c'est éviter le soleil. Alors on me dit trop sévère entre 10h et 16h, on peut dire entre 11h et 15h30 ou 16h.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, professeur Nicolas Dupin. Je rappelle que vous êtes professeur de dermatovénérologie à l'hôpital Cochin, directeur du centre de santé sexuelle de l'Hôtel Dieu à Paris. Et votre livre s'intitule « Mon ami, la peau ».
Merci beaucoup.
Au revoir. Les questions des auditeurs au docteur Catherine Solano, sexologue, qui est aujourd'hui avec nous dans Priorité Santé. Bonjour Catherine.
Bonjour Caroline.
Et on prend tout de suite un auditeur qui est en ligne de Boisquet, en Côte d'Ivoire. Cet auditeur, c'est Benjamin. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, je disais que je suis un jeune homme de 30 ans. Mm-hmm. Je suis non circoncis. J'ai jamais fait de pénétration proprement dite. Parce que ça fait plus de 10 ans que je me masturbe. Et j'ai essayé 2 à 3 fois de faire des pénétrations. Mais quand je vais faire la pénétration, mon sexe n'est pas assez dur pour pouvoir pénétrer le sexe féminin. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique ça.
Docteur Catherine Solano, qu'est-ce que vous pouvez dire à Benjamin?
Donc ce que vous vous posez comme question, c'est est-ce que c'est lié au fait que je ne suis pas circoncis si j'ai pas des bonnes érections au moment de la pénétration, c'est ça?
Oui, ou bien si c'est lié à une faiblesse sexuelle, je sais pas.
Alors, déjà, la circoncision... Qu'un homme soit circoncis ou pas, normalement, il n'y a pas de différence sur l'érection. Il a des aussi bonnes érections, la pénétration est aussi facile, tout fonctionne normalement. Sauf si un homme n'est pas circoncis, il y a un phimosis. Est-ce que vous voyez ce que c'est un phimosis? C'est quand le prépuce est trop serré. Est-ce que vous avez ce problème-là?
C'est-à-dire
que on n'arrive pas à décaloter, à retrousser le prépuce pour mettre le gland vraiment à l'air.
Oui, j'ai ce problème-là.
Ah oui. Donc, c'est peut-être dû à ça que vous avez un problème à la pénétration. Parce que à votre âge, à 30 ans, si ça fait 10 ans que vous avez des problèmes de pénétration, c'est pas logique. Mais en général, on est en bonne santé à votre âge et tout fonctionne. Donc, si vous avez du mal à retrousser votre prépuce, ça veut dire que vous avez un phimosis. C'est pas normal. Bon, c'est pas très grave, mais c'est une petite anomalie. Et donc, ça peut faire qu'on a du mal au moment de la pénétration parce que, tout simplement, ça fait mal, ça tire et c'est douloureux et du coup, comme vous avez peur d'avoir mal, vous perdez votre érection. Est-ce que c'est ça qui vous arrive un peu?
Bon, pas de la peur en tant qu'hyper.
Mais vous avez un peu mal?
Bon, j'ai jamais essayé de faire le pli.
Ah oui. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il va falloir que vous fassiez des exercices pendant... plusieurs semaines, ça peut être 1 mois ou 2, ça dépend un peu des hommes, pour étirer votre prépuce petit à petit. Parce que, si vous voulez, il y a 2 solutions. Soit on fait des exercices et on arrive à étirer le prépuce et à décaloter facilement en faisant des exercices, soit on doit avoir une opération de plastie du prépuce ou de circoncision. Plastie du prépuce, ça veut dire on garde le prépuce mais on l'élargit. Évidemment, c'est sous anesthésie, hein, je vous rassure. Soit on l'enlève carrément et vous êtes circoncis. Les exercices, ça marche souvent très très bien, à condition de prendre son temps. Donc il faut faire des exercices, il faut carrément tirer sur le prépuce en avant, comme pour dépasser de 1 cm du gland. Ouais, mais pas l'arracher, hein. Faut tirer un peu fort quand même. Il faut mettre un doigt à l'intérieur et tirer des deux côtés, à gauche, à droite. Il faut faire des exercices d'étirement sous la douche, par exemple, sans vous faire mal, mais en tirant un petit peu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a beaucoup d'hommes qui réussissent à décaloter au bout de quelques semaines comme ça. Donc, je vous conseille de faire des exercices. Si vous voyez au bout de 3-4 semaines que c'est un petit peu mieux, faut continuer. Si vous vous dites, moi, j'y arrive pas du tout, je vous conseille dans ces cas-là de consulter un chirurgien urologue qui vous donnera son avis. Mais je vous conseille vivement de faire les exercices avant, parce que, à mon sens, les chirurgiens ont tendance à dire, bon, on va vous opérer. Et quand c'est pas la peine, bon, bah, c'est dommage de se faire opérer à cet endroit-là si on arrive à se débrouiller sans.
Benjamin, est-ce que, justement, vous allez essayer ces exercices? Qu'est-ce que vous en pensez de ces conseils du docteur Solano?
Bon, je compte essayer ces exercices parce que je ne veux pas faire d'opération pour le moment.
Pour le moment.
Il y a un autre exercice. Alors, Caroline, j'espère que je vais choquer personne, mais c'est tout bête. C'est que il y a un exercice aussi parce que des fois, on n'arrive pas à décaloter quand on est un homme parce qu'il y a des adhérences entre le prépuce et le gland. C'est pas seulement qu'il est trop étroit, c'est que ça se colle un peu. Donc, c'est de pincer le bout du prépuce et d'uriner un tout petit peu pour faire gonfler le prépuce et ça l'aide à se décoller du gland, en fait. Ça paraît bizarre comme exercice, mais ça fait un petit ballon au bout et ça permet petit à petit de décoller les adhérences. Et ça évite souvent de se faire opérer si on le fait plusieurs fois.
Voilà, Benjamin, pour ces conseils du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une bonne journée à Boaké, en Côte d'Ivoire. Et on a une autre question, hein, docteur Solano, elle nous vient de la République démocratique du Congo. Question Facebook posée par Dido. Le Viagra peut être utilisé à tout âge ou est-ce que c'est simplement pour les hommes de plus de 50 ans?
Eh bien, c'est une très bonne question parce que je milite pour ça. Ça peut être utilisé par les hommes très jeunes, dès 18 ans. On parle maintenant de sildénafil, le générique du Viagra, parce qu'il est beaucoup moins cher et qu'on le trouve en pharmacie labellisée et où on est sûr d'avoir un médicament qui est correct. Mais on utilise...
Parce que attention, il y a beaucoup de faux Viagra qui est vendu sur les marchés un petit peu partout ou sur Internet.
Voilà, et c'est bête d'en acheter parce que maintenant c'est pas cher. Avant c'était très cher, mais maintenant les prix ont beaucoup baissé. Donc souvent, c'est vrai, la question de Dido, c'est vrai que c'est souvent chez les hommes plus âgés qu'on l'utilise, bah, tout simplement parce qu'ils ont plus de problèmes de santé. Donc des moins bonnes artères, etc. Donc plus de problèmes d'érection. Moi, je l'utilise beaucoup chez les hommes jeunes, souvent beaucoup moins longtemps. Parce que c'est juste pour les aider à pas être embêtés par le stress de l'érection et de la pénétration. On leur a prescrit 5, 6, 10 fois, et une fois que ça marche, ils n'en ont plus besoin du tout. Un autre moment où on l'utilise, c'est quand un homme jeune, ou pas d'ailleurs, a eu une interruption dans sa vie sexuelle. Quand pendant 6 mois il n'a pas eu de rapport sexuel, souvent il recommence, et ben il a des petites pannes ou des grosses pannes. Le fait d'en prendre, ça sert de starter et ça redémarre et après il n'en a plus besoin.
Merci beaucoup docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue et on vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, journée mondiale des donneurs de sang. On va parler de la collecte, de la transfusion. Appelez-nous pour décrire la situation dans votre pays. On attend donc vos témoignages sur notre page Facebook et à notre numéro 33 1 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.